Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet audio où je vous propose une réflexion autour du concept de l'enfant intérieur afin de comprendre ce qu'il est, ce qu'il n'est pas aussi, comment il s'est construit, comment il se rappelle à nous. Nous verrons également qu'il est une de nos fondations centrales à notre cheminement de guérison et d'intégration, mais que ce n'est pas si simple que cela à mettre en place à cause notamment de sa résistance à la guérison même. Nous verrons aussi que l'intégration de l'enfant intérieur se déroule en plusieurs phases et qu'elles sont toutes très importantes. Commençons alors avec la construction de notre enfant intérieur. Alors, il est parfois difficile de saisir exactement ce que représente dans notre psyché ce concept qualifié d'enfant intérieur. Nous savons aujourd'hui que la relation avec nos parents et notre environnement éducatif plus étendu sont les fondations de toutes les dynamiques relationnelles que nous aurons une fois que nous serons devenus adultes. Selon que l'enfant grandit dans une atmosphère sécurisante, ambivalente, évitante ou totalement désorganisée, l'adulte se sentira plus ou moins en sécurité dans le monde. Petite parenthèse, parce que quelque part j'ai été un petit peu triste de l'apprendre, mais pour se sentir en sécurité une fois adulte, eh bien l'enfant n'a pas besoin d'être soutenu en permanence en fait par ses parents ou son système éducatif. On ne cherche pas du 100% en se disant à 90% on a échoué. D'après des récentes études, l'enfant en fait n'aurait besoin que de 30% d'attention auprès de ses besoins, donc de remplir simplement 30% de son besoin d'attention, de son besoin de reconnaissance et de tous ses besoins en fait. Reprenons. Donc, comme si elle n'avait pas grandi, notre âme enfant, c'est comme ça aussi qu'on peut l'appeler, eh bien, on peut la voir comme une part de notre conscience qui a été arrêtée dans son développement quand nous étions très jeunes. Et nous pouvons imaginer que ces morceaux de soi ont ensuite été réorientés vers notre inconscience, qu'on appelle également l'ombre. Et puisque cette part-là n'a pas pu mûrir, grandir avec le reste de nous-mêmes, eh bien, elle continue à nous apparaître comme coincée dans l'expérience d'un enfant. Et c'est ainsi que cette part de nous va projeter notre passé d'enfant dans notre réalité actuelle, et cela tout simplement dans le but d'assouvir ses besoins qui n'ont pas rempli ses 30% dans l'enfance. Donc, notre enfant intérieur va voir la vie, va voir notre vie à travers nos yeux, mais aussi en deuxième filtre, à travers ses yeux d'enfant, c'est-à-dire sans nuance et avec ses propres défauts de perception. Et cette part en nous, cette enfance-là qui n'a pas été soutenue et autorisée pleinement à être, eh bien, ses qualités n'ont pas été acceptées, donc pour telle ou telle raison, peu importe. Et nous avons donc appris en fait à supprimer ces aspects spécifiques. De plus, bien que notre enfant intérieur soit né totalement innocent et sans défense, c'est ce qui l'a poussé d'ailleurs à créer une allégeance totale à ses parents, il a emmagasiné les empreintes et les croyances propres de ses parents ou de ses éducateurs. C'est-à-dire qu'une fois adulte, il va s'identifier totalement à ces empreintes-là. Notre personnalité d'adulte va donc se construire autour de cette part isolée de notre âme, en s'identifiant à tout ce qui était acceptable par nos éducateurs. Et tout cela va grandir. Et les parts inacceptables vont être enfouies de plus en plus profondément dans l'inconscience, et cela donc sans possibilité de croissance. Notre âme enfant va se dévoiler à nous de plusieurs façons, surtout en particulier dans nos comportements de résistance à faire quelque chose ou parfois d'oubli de faire quelque chose. Donc par exemple, quand nous faisons un régime et que tout d'un coup on est poussé d'une façon incompréhensible à manger du chocolat. Ou alors lorsque nous attendons le dernier moment pour faire notre déclaration d'impôt ou pour rendre un compte rendu par exemple. À chaque fois que notre comportement en fait n'est pas en adéquation avec ce que la raison conviendrait de faire, eh bien nous pouvons ressentir une division intérieure entre ce qui est nécessaire et ce dont a besoin l'enfant intérieur, et qui est souvent lié à des plaisirs. Parce que l'enfant intérieur ne veut faire que ce qui lui plaît, et les devoirs d'adulte ne vont pas du tout lui plaire. Nous allons utiliser ainsi une grande partie de notre énergie à surmonter au quotidien cette résistance et parfois même à faire face à de véritables crises de l'enfant intérieur qui va s'exprimer sous forme d'inconfort, c'est-à-dire de souffrance émotionnelle, mentale, parfois physique, mais aussi des états de fatigue par exemple. Donc encore là, toujours une résistance à la vitalité. Nous pouvons alors voir que notre enfant intérieur utilise ces états-là d'inconfort dans le but, finalement, d'attirer notre attention. Et si nous ne les prenons pas en compte, eh bien ces états vont perdurer. C'est toujours l'attention qui est recherchée. En raccourci, on pourrait même dire que la source de tous nos inconforts en tant qu'adultes, eh bien, ont une cause dans notre enfance et une cause que nous devons intégrer. Nous avons donc par commencer à accepter que nous avons tous une part d'enfance qui vit encore à l'intérieur de nous et d'admettre qu'elle puisse être blessée. Notre âme enfant se sent plus vivante et vitale que le reste de notre personnalité parce qu'elle va aussi conserver un lien d'accès à notre essence intérieure, ce qu'on peut voir comme notre étincelle divine, notre soi authentique. En fait, on peut visualiser tout cela dans un espèce de système qu'on va appeler le système âme et qui pourrait ressembler à peu près à une cellule avec un noyau au centre. Ce noyau, c'est le soi authentique et la cellule, c'est l'âme. Et le noyau va être entouré par des excroissances les unes par-dessus les autres qui suit en fait notre propre croissance à nous. Et en fait, on peut les visualiser comme des cercles de croissance d'un arbre, par exemple, ou des couches d'un oignon. Donc, la couche la plus profonde du noyau essence va être, en fait, la couche de l'enfant intérieur. Les couches supplémentaires vont être, elles, des structures de personnalité qui ont été construites après, donc beaucoup plus matures. Donc, l'enfant intérieur n'a pas que des inconvénients. En accédant en conscience à cette couche très profonde de notre psyché, nous pouvons donc nous relier avec les qualités de l'enfance, telles que la joie, la vitalité, la curiosité, l'amour de la vie, mais aussi et surtout, nous pouvons nous rapprocher de notre essence et d'être au plus près d'accéder à elle. Et pour cela, nous devons intégrer cette structure d'enfant intérieur en l'apprivoisant, en remplissant ses besoins de reconnaissance et d'attention, et aussi de toutes ces parts qui ont été jugées inacceptables à l'époque. Donc finalement, de ce que je vais appeler plus tard, l'enfant intérieur blessé, celui qui n'a pas pu grandir parce que nous l'avons mis de côté. Donc c'est plutôt des parts que globalement un seul enfant, c'est des parts enfantines. Et celui qui a accès au savoir rationnel, eh bien, c'est l'adulte intérieur, la conscience. C'est donc à lui d'avoir l'initiative de dialoguer avec l'enfant intérieur, afin notamment de le guider à ne plus avoir ses peurs ou ses besoins d'attention, pour que ces peurs-là, en fait, n'entravent plus le fonctionnement du côté rationnel, du côté adulte, en fait. Parce que l'enfant intérieur, en effet, ne peut pas se rassurer seul. Il a été mis de côté avant, en fait, que le cerveau, et notamment la partie cognitive du cerveau et de gestion des émotions, soit tout à fait mature. Donc, il va avoir besoin des conseils de la conscience afin de se déconditionner de ses peurs. C'est ce qu'on appelle se parenter. Et se parenter devient alors la prise de conscience de notre adulte intérieur afin de remplir les différents besoins de notre enfant et pour lui apprendre en fait autre chose que l'insécurité. Notamment, c'est un des grands piliers, une des grandes peurs de l'enfant, c'est que d'avoir été écarté, il sent qu'il n'est pas à 100% soutenu et il vit dans l'insécurité. Et un enfant en sécurité, un enfant intérieur en sécurité, va se transformer finalement en la personnification de notre essence divine, ou plus justement, une voie d'accès à cette essence-là. Se connecter ainsi à cette part intérieure d'enfant, lorsque du coup elle est guérie, ça lui permet en fait d'avoir notre conscience, et c'est aussi se connecter avec notre vérité intérieure, celle qui est capable de nous orienter, faire les meilleurs choix pour réaliser en fait ce que veut notre âme. Ainsi, pour résumer, on pourrait dire que nous avons l'enfant intérieur blessé, qui ressemble un petit peu à un auto-saboteur avec énormément de résistance, de réactivité. L'enfant intérieur qui est guéri, intégré et qui est une voie d'accès au soi authentique. Et en troisième, l'adulte intérieur qui est le pédagogue et qui peut être assimilé au moi supérieur. Donc, a priori, c'est très simple, sauf que non, parce que notre âme enfant reste dans l'ombre. Et tant qu'il reste dans l'ombre, sa bonne compréhension et sa coopération à faire ce qu'on fait vont être très difficiles à obtenir. Il va devenir une grande résistance dans notre vie, va provoquer des situations d'évitement, des fameux comportements de people pleaser par exemple, des états de congélation intérieure qui nous font scroller par exemple des heures plutôt que de prendre en fait le risque de vivre et de faire des choses. Donc, quand il se produit un événement qui va déclencher la réaction de l'enfant intérieur, hein, que ce soit un comportement physique, verbal ou émotionnel, eh bien notre système nerveux va agir comme si le souvenir traumatique de l'enfance venait d'être vécu à nouveau à ce moment précis. Nous venons en fait de laisser le contrôle à notre enfant intérieur alors qu'il était en plein dans ses peurs. Et céder aux peurs de notre part intérieure blessée va être la cause de notre réactivité, c'est-à-dire une réponse automatique réflexe. Cela peut se voir aussi lorsque nous faisons des conclusions, par exemple, illogiques ou irraisonnées sur des sujets, que du coup, en fait, c'est l'enfant intérieur qui a pris le contrôle, ou de façon beaucoup plus juste, de voir qu'il y a une telle résistance, une telle friction, et bien que nous finissons par, nous, l'adulte, lâcher prise et par lui donner le contrôle. Au contraire, être trop dur envers lui fait qu'il va résister d'autant plus dans ses peurs et dans ses blessures, et cela va se traduire par un manque de toute envie, de désir, de joie de vie, de joie à faire et de fonctionnement. Donc on va avoir beaucoup beaucoup de mal à fonctionner, on va mettre une énergie incroyable juste pour faire un peu. Parce que oui, l'enfant intérieur est souffrant, mais l'adulte intérieur possède aussi sa part de responsabilité parce que lui ne sait pas y faire. Il va être soit trop laxiste ou alors trop dur avec lui. Pour illustrer un petit peu, prenons un exemple de comportement que l'on voudrait voir changer en soi, et nous allons voir que du coup la résistance de l'enfant intérieur, ça s'applique aussi quand on veut faire des changements positifs dans notre vie. Alors, je nous propose de travailler avec l'exemple d'apprendre à dire non, d'oser dire non. Alors, dans notre cheminement, un jour, on découvre que toute notre vie, eh bien, nous avons dit oui alors que l'on pensait non, que ce soit pour éviter le conflit, pour éviter d'être rejeté. C'était jusque-là un comportement inconscient, c'est-à-dire une prise de contrôle de l'enfant blessé. Et soudain, on comprend que ce n'est pas du tout bon pour nous parce qu'on n'est pas dans l'authenticité et qu'on se trahit finalement en faisant ça, qu'on s'abandonne. Donc ça y est, c'est décidé, on prend son courage à deux mains et on va commencer à changer de comportement et à oser dire non. Ça va être très difficile, hein, on va parfois même trembler un peu parce que l'enfant intérieur est en panique. Mais on va y arriver. C'est là qu'on est un petit peu dur. Mais l'enfant intérieur qui panique, c'est aussi parce que du coup, ses croyances sont encore bien vivantes, présentes, et il s'identifie à elles totalement. Ce sont les fameuses empreintes. Et alors, on a peut-être réussi à dire non, mais on l'a fait de façon forcée et sans prendre en considération le ressenti de l'enfant intérieur. Et puis, parce que du coup, on se dit que c'est la choses à faire, on va continuer, on va recommencer, on va forcer encore et encore. Et l'enfant intérieur va paniquer de plus en plus. Il va résister à ce qui ressemble à une avancée pour nous, parce qu'il est persuadé que si on continue comme ça, eh ben, on va se faire tuer. Il se dit, mais l'adulte qui prend les commandes, il va réussir à nous faire tous tuer. Donc, il est vraiment persuadé de notre mort toute proche, parce que lui, il sait qu'en utilisant les stratégies à lui, qu'on a utilisées dans le passé, eh bien, cela nous a effectivement protégés. Dire oui quand on pensait non nous a permis d'éviter beaucoup de conflits, beaucoup de chaos, beaucoup de violence. Ok. Donc l'adulte en nous doit maintenant lui démontrer que ces stratégies-là du passé ne sont plus utiles aujourd'hui. Et que, pire encore, elles sont la cause même de nos souffrances actuelles. Donc pour lui permettre de visualiser qu'il n'y a plus de danger désormais, parce qu'on est grand et qu'on saura en fait grandir à travers les conflits, eh bien, il va falloir l'exposer progressivement à ce que lui fuit, c'est-à-dire le fait de s'affirmer dans notre cas. Car si nous allons trop vite, si on force, eh bien, son sentiment d'insécurité va augmenter jusqu'à atteindre sa limite, alors que, paradoxalement, nous cherchions, nous, à créer une réponse plus sécurisante pour nous. C'est alors que la résistance de l'enfant intérieur à nous laisser agir va s'exprimer d'une façon extrême. Donc là, on va aller au-delà de la fatigue, carrément des petits accidents domestiques, des maladies qui vont être en fait de bonnes occasions pour ne plus avoir assez de force ou d'opportunité pour créer de nouvelles situations d'affirmation et donc de nouvelles situations dangereuses. Finalement, l'enfant intérieur va provoquer des situations où tout le monde est gagnant. L'adulte intérieur n'a plus à le mettre dans des situations dangereuses et lui, il n'a plus peur. Il nous faut donc penser à tout instant, lorsque l'on est sur un chemin de guérison, que l'on possède un enfant intérieur parfois traumatisé et que nous devons le traiter avec la même délicatesse qu'un enfant phobique. Cela passe par un rythme lent, une exposition douce, avec la constatation de l'absence des conséquences qu'il attendait en fonction de ses croyances. On peut voir qu'il n'y a pas de paix intérieure possible tant qu'on ne va pas aller porter secours en douceur, attention, à notre enfant intérieur. Et que ce travail intérieur conscient consistera principalement en fait, à lui donner l'attention dont il a manqué en rétablissant surtout une relation avec lui et en osant devenir son propre parent, qui ne soit pas ni dans un extrême trop laxiste, ni trop dur. Cependant, cette expérience de reliance avec l'enfant intérieur est parfois jugée dangereuse par notre psyché et notre adulte intérieur, parce qu'il pense que si nous l'amenons à notre conscience, cet enfant-là, eh bien notre réalité va devenir celle de l'enfant. Il n'y a pas vraiment de compréhension logique de cet état de fait, c'est un petit peu cette magie symbolique dans laquelle l'âme vit et qui est persuadée que si l'enfant va prendre la place, le monde de l'enfant va prendre la place de notre réalité, ce qui est bien entendu faux, mais c'est voilà, une résistance intuitive et instinctive de l'adulte intérieur qui ne veut pas céder en fait au monde de l'enfance. Donc c'est aussi une solution finalement assez contre-intuitive que l'adulte éprouve cette résistance, parce que vouloir isoler l'enfant intérieur, ça ne résout rien. Au contraire, il va faire plus de crises, plus de réactivité et encore plus de situations d'inconfort. Alors que plus nous l'amenons à la conscience et plus nous le soutenons en l'acceptant, et plus il se sentira en sécurité. Donc on voit bien que contacter son enfant intérieur, c'est pas si simple que ça. Il y a de la résistance qui s'éprouve de tous les côtés, du côté de l'enfant, mais également du côté de l'adulte. Sans oublier que nous devons apprendre à gagner sa confiance après l'avoir si durement traité pendant des années, toute notre vie. Donc, nous devons aussi comprendre que, comme il le ferait vis-à-vis d'un parent, l'enfant intérieur va regarder tous nos moindres gestes. Il va pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Il va être le témoin de tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons. Paradoxalement, à sa peur de l'affirmation, eh bien, si nous disons oui alors que nous pensons non, eh bien, il va en déduire que nous sommes, que en fait, nous ne sommes pas capables de nous occuper de lui. Donc, c'est vraiment un équilibre très difficile à obtenir, quelque chose qui doit se faire en grande douceur et vraiment lentement. Mais aussi, de se rapprocher ainsi de notre enfant intérieur va requérir de notre part une grande impeccabilité, une grande honnêteté dans tout ce qu'on fait, dit, pensons. Et puis, bien entendu, si nous ne l'avons pas approché depuis longtemps, il faudra le faire avec une infinie patience, s'ajuster à son rythme, valider ses ressentis, lui donner attention et réconfort par une présence, donc être présent, le faire monter à la conscience, et à chaque instant, que ce soit fait dans une présence non jugeante. Donc pour cela, il faut bien naturellement commencer à ouvrir le dialogue entre lui et notre adulte pédagogue. Donc c'est un travail que l'on peut voir qui s'effectue en plusieurs phases. Tout d'abord, il va y avoir accepter l'existence de l'enfant intérieur en nous, accepter qu'il soit blessé et accepter les différentes blessures, oser les voir. En troisième, oser prendre la place du parent que l'enfant rêvait d'avoir, c'est-à-dire quelqu'un qu'il aime de manière inconditionnelle et dans toutes ses parts. Il faudra également régulièrement lui donner toute notre attention, mais aussi valider ses ressentis et ses besoins, le rassurer, lui démontrer que ses croyances sont fausses, et on l'a vu avec une extrême douceur, vraiment pas à pas, et lui montrer notre amour inconditionnel en respectant en fait son rythme. Alors, bien entendu, pour intégrer mon enfant intérieur, j'utilise les outils que vous avez l'habitude de me voir utiliser. La créativité intuitive, que ce soit peinture ou collage, mais aussi les tirages de cartes en mode analytique, ou même l'utilisation d'un compte. Et nous allons voir quelques-unes de ces techniques dans l'atelier et les pages qui suivent. Finalement, grâce à cet audio, vous avez déjà pu passer les deux premières phases qui sont accepter l'existence de l'enfant intérieur, ainsi que comprendre pourquoi il est si précieux et combien il a pu être blessé par le manque de soutien de ses profondeurs pendant toute son enfance. Mais nous allons commencer par une petite incursion dans le monde de la nature et des 16 liés, en fait, qui peuvent soutenir notre approche, notre dialogue et notre intégration de notre enfant intérieur. Avant cela, cependant, je vous propose d'établir une toute première approche avec votre âme enfant, avec l'exercice de la lettre que vous trouverez sur cette page. Je vous dis donc à très vite pour la suite.